Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Des céréales au criquet, des fourmis marinées et des vers de farine grillée seront-ils les steaks de demain? Alors qu'on prédit une consommation de viande en hausse de 75% à l'échelle planétaire d'ici 2050, difficilement gérable pour l'environnement, les insectes arrivent à la rescousse dans nos assiettes. Après les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Finlande et le sixième pays européen à considérer les insectes comme une nourriture qui peut donc être vendue comme telle en magasin ou dans les restaurants. Des éleveurs d'un nouveau genre font donc leur apparition en banlieue d'Helsinki. C'est le reportage de Laurent Berthaud.
Ici, pas de grands corps de ferme entourés de vastes prairies. Nous sommes en périphérie d'Helsinki, sur le parking d'une pépinière d'entreprise où stationne un simple conteneur muni d'une porte transparente. On se glisse dans un sas minuscule où l'on enfile des surchaussures avant de faire coulisser la porte de l'élevage en compagnie de Perttu Karjalainen à l'origine de cette ferme.
All right, let's go. Yeah, so welcome to the EntoCube container farm.
Bienvenue dans la ferme d'EntoCube. C'est le plus grand conteneur sur les 5 que nous avons en Finlande. Ici, on élève environ 1 million de criquets. Ils grandissent dans de grandes boîtes en plastique, ce qui permet de les séparer en fonction de l'âge. On leur donne de l'eau et comme aliment, une mixture spéciale que nous avons mise au point et qui répond parfaitement à leurs besoins.
Les criquets grandissent par 35 degrés, une chaleur humide qui permet d'optimiser l'élevage.
Là, c'est la boîte où nous faisons incuber et éclore les œufs. Vous voyez, ils ressemblent à des grains de riz. Il faut compter 9 jours avant de voir apparaître les bébés criquets. Nous, on les appelle têtes d'épingle, mais le mot exact, c'est nymphes. Et chaque jour, on compte 20 à 30 000 naissances. On les élève pendant 35 jours, ensuite on les récolte, puis on les fait mourir par congélation. C'est une façon humaine de les tuer. Ils s'endorment petit à petit avant de mourir.
EntoCube produit déjà des céréales aux criquets et propose ses insectes congelés au restaurant. Mais surtout, la jeune société vend ses fermes clés en main, criquets inclus, aux éleveurs qui souhaitent se lancer. Et pour mieux saisir la saveur de cette nourriture nouvelle pour de nombreux Européens, un chef, Topi Kairenius, organise de nombreuses dégustations depuis plusieurs mois dans tout le pays. Il m'a donné rendez-vous à deux pas de la ferme pour me faire découvrir le goût des criquets et autres insectes, par exemple des larves d'abeilles. D'un sac en plastique, il sort des rayons de cire récupérés dans une ruche.
Il faut briser la cire des rayons et là on peut récolter les larves. En fait, dans la nature, ces larves sont gâchées. Ça représente 45 tonnes par an. Maintenant, on peut les utiliser comme ingrédient. C'est un produit dérivé du miel. Mais jusqu'alors, personne ne les valorisait comme nourriture, alors que nous avons d'énormes volumes disponibles pour en faire des plats délicieux. Donc maintenant, on a notre pile de larves d'abeilles. Je vais juste les frire avec du beurre et ajouter un peu de sel.
Quelques allers-retours dans la poêle et voici le moment un peu redouté de la dégustation.
Donc c'est une grande première pour moi, je vais manger des insectes pour la première fois. Donc des larves d'abeilles. Ok, petite appréhension normale, culturelle. Ben, ça sent beaucoup le miel, c'est croustillant et en même temps un petit peu souple. On sent que c'est assez riche comme nourriture. Ma foi, c'est pas mal du tout.
La dégustation de fourmis marinées et de vers de farine se révèle un peu plus difficile. Le criquet, en revanche, fait penser à des crevettes sucrées. Mais l'ingrédient se prête à bien des recettes.
Il y a bien des façons d'accommoder les insectes en cuisine. Ils peuvent être marinés, grillés, surgelés, tels quels ou en poudre. On peut les frire, les cuisiner ou les rôtir. C'est un ingrédient très polyvalent. On peut choisir des insectes plutôt sucrés, salés, amers, assaisonnés en fonction de la nourriture servie avec.
Mais finalement, pourquoi changer ses habitudes alimentaires et se mettre à manger des insectes? La réponse du patron d'Entocube, Perttu Karjalainen.
D'abord parce que c'est bon. Le goût des criquets est excellent. Ensuite, parce que l'aliment a plein de qualités nutritionnelles. Les insectes sont pauvres en graisse, mais riches en protéines, vitamine B, en fer, en zinc, calcium et magnésium. Mais aussi beaucoup de fibres, comme dans le pain complet. La troisième raison tient à l'environnement. Élever des criquets nécessite peu de place, pas beaucoup d'eau. Avec la même quantité de nourriture, on peut nourrir 10 fois plus de criquets que de vaches, par exemple.
Autant dire que la toute jeune filière était dans les starting blocks bien avant le 1er décembre. Et ce n'est qu'un début.
C'est très prometteur. On n'imagine même pas tout ce qu'on va produire à base d'insectes dans les 2 ans à venir, ni quel type d'insectes on va pouvoir élever. C'est super motivant de travailler à ça. Nous avons déjà nos céréales. On proposera bientôt des amuse-bouches à base de criquets grillés et de cacahuètes, des barres de protéines, des pâtes aux criquets, et aussi de la poudre de criquets grillés, à ajouter à vos smoothies ou dans vos sauces. On imagine aussi un produit qui ressemble à la viande, un substitut qui répond bien à la tendance végane.
Une communauté végane divisée sur la consommation d'insectes. Certains s'y refusent au nom de la souffrance animale. D'autres estiment au contraire qu'ils apportent les protéines nécessaires et qu'ils permettent de préserver l'environnement. Ce qui est sûr, c'est que la grande majorité des Finlandais, 80%, se dit prête à essayer.
On le croyait fini définitivement à la retraite forcée après de multiples scandales. Surprise, Silvio Berlusconi revient alors que les élections législatives sont prévues au printemps prochain en Italie. Le Cavaliere s'est lancé dans la course électorale à 81 ans. Après avoir été déjà élu 3 fois président du Conseil, il n'a plus rien à perdre et s'est utilisé à son profit l'instabilité politique chronique de son pays. À Rome, Olivier Bonnel.
J'ai subi 76 procès et plus de 3500 audiences et n'ai été condamné qu'une seule fois, expliquait Silvio Berlusconi sur la RAI, la première chaîne italienne, le 6 décembre dernier. C'est un homme de fer qui résiste à tout, un homme regonflé à bloc après la victoire de la droite aux élections régionales en Sicile il y a un mois, face au Parti démocrate au pouvoir et aux populistes du mouvement 5 étoiles.
Grazie dal profondo del cuore.
Merci du fond du cœur, merci aux électeurs siciliens d'avoir entendu mon appel. La Sicile a choisi, comme je l'avais demandé, la voie du changement. Un changement véritable, sérieux, constructif, basé sur l'honnêteté, la compétence et l'expérience. Le même défi sera posé dans les prochains mois à notre Italie, à l'Italie tout entière.
Dans sa vidéo tournée depuis son domicile, Silvio Berlusconi se sent pousser des ailes. Pour la droite italienne et son chef historique, chassé du pouvoir en 2011, ces élections en Sicile doivent être un tremplin pour les prochaines élections du printemps prochain. À 81 ans, Silvio Berlusconi est redevenu incontournable, qui donnait cher pourtant de la peau du Cavaliere il y a un an à peine encore. En 2016, l'ancien président du Conseil a survécu à une opération à cœur ouvert, à la vente de son mythique club de foot, le Milan AC, aux Chinois, et aux condamnations judiciaires qui ne cessaient de s'accumuler sur son bureau. Maurizio Gasparri, vice-président du Sénat, est l'un des plus proches de Berlusconi.
Beaucoup pensaient que Berlusconi disparaîtrait du paysage politique italien, mais il y a eu des événements internationaux difficiles, par exemple, qui lui ont donné raison. Prenez l'intervention désastreuse en Libye que la France a voulu avec Sarkozy, l'Angleterre avec Cameron et les États-Unis avec Clinton. Fin 2017, que reste-t-il? Clinton a perdu la présidentielle, Sarkozy a été battu aux primaires et Cameron a échoué à garder le pouvoir. Berlusconi, à 81 ans, est en piste en Italie pour être cet unificateur du centre-droit pour obtenir la majorité au Parlement.
Berlusconi a survécu à tout, y compris jusqu'ici aux affaires judiciaires. Condamné pour fraude fiscale en 2013 et inéligible pour 6 ans, il a demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de casser ce jugement. Pas sûr que ce soit le cas avant les élections, mais le milliardaire aux dents blanches a tout prévu. Si ce n'est pas lui, il a son candidat pour prendre la tête du pays, un général des carabiniers. Ce Berlusconi, faiseur de roi dans la péninsule, irrite de nombreux Italiens comme Stefano, qui a longtemps été séduit par le centre-droit, mais plus aujourd'hui.
Le retour de Berlusconi, c'est grotesque. On se croirait presque au théâtre. Après tout ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu, mais ce n'est même pas un personnage d'opérette. Berlusconi, pour avoir des voix, Il est prêt à caresser un mouton, à épouser la cause animaliste, et le lendemain, vous le voyez à la fête de la charcuterie. Il n'a aucune stature morale. Pour moi, c'est insupportable.
Pourtant, rien n'y fait, n'en déplaise à ses opposants. Berlusconi a su se rendre indispensable. Il y a quelques jours, il a parié sur une majorité de 40% au Parlement à l'issue des prochaines élections, à condition qu'il se mette d'accord avec les autres composantes de la droite. Pour le politologue Giovanni Orsina, si Berlusconi est encore incontournable dans la péninsule, c'est la faute du système politique italien qui n'a pas su créer une nouvelle génération de leaders, la parenthèse Matteo Renzi s'étant refermée. Mais c'est surtout le génie politique de Berlusconi qui explique sa force aujourd'hui.
Berlusconi est une personnalité exceptionnelle historiquement. Il y a beaucoup de négatifs dans la personnalité de Berlusconi, mais même dans la négativité, il y a quelque chose d'exceptionnel. Berlusconi a créé des dauphins et il les a tués. Et il a, comment on peut dire, désertifié les centres droites exactement parce qu'il ne voulait pas qu'il y avait un successeur. Il a créé le vide autour de lui. Il a dit plusieurs fois, j'irai à la retraite s'il y avait une autre figure. Mais quand il avait la possibilité de bâtir, de créer une autre figure, il a empêché.
Si la route est encore longue avant les élections, Berlusconi, lui, a le vent en poupe et n'hésite pas à tirer sur toutes les ficelles. Il y a quelques jours, celui qui organisait les fameuses soirées Bunga Bunga dans l'une de ses villas de luxe avec des mineurs n'a pas hésité à faire de la défense des femmes l'une de ses grandes causes pour revenir tout en haut de l'affiche.
If you would describe how your identity is today, what would you say, you're Israeli?
Well, you know,
Ils sont les derniers témoins de la Shoah en Autriche. Des centaines de Juifs autrichiens qui se sont exilés aux États-Unis et en Israël avant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie et la Seconde Guerre mondiale. Leurs témoignages ont été recueillis par deux historiens au cours des 20 dernières années et sont à écouter sur le site austrianheritagearchive.at à Vienne. Céline Béal les a écoutés pour nous.
I want to start at the back. At the beginning, I was born in 1918.
Emmanuel Fuchs a vécu à Vienne de sa naissance en 1918 à 1938, l'année de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Déporté, comme des centaines de milliers de Juifs ou considérés comme tels, il raconte 6 semaines abominables dans le camp de concentration de Dachau, dont il a été sauvé, par chance, par sa sœur. Sa fuite l'a mené aux Pays-Bas, puis en Belgique et enfin aux États-Unis. Il fut l'un des premiers à y parvenir. C'était en 1939 et l'accueil n'était pas toujours chaleureux.
J'ai eu des problèmes au début pour expliquer ma situation aux gens. C'était avant la guerre. Et quand j'ai fait mon service militaire aux États-Unis, je me suis retrouvé avec des camarades d'origine italienne qui avaient d'ailleurs eux-mêmes des sympathies pour Mussolini et qui m'ont dit « Tu as dû faire quelque chose de mal pour que les autorités de ton pays s'en prennent à toi. Ils ne voulaient pas me croire quand je leur disais que j'avais été dans un camp de concentration. Ils insistaient, ils ne pouvaient pas comprendre. Le monde ne comprenait pas encore. »
Comme la plupart des 30 000 Autrichiens qui ont atteint New York, Emmanuel Fuchs n'est jamais retourné vivre dans son pays. Mais son histoire, elle, vient d'y revenir. Deux historiens viennois ont en effet entrepris de digitaliser des heures et des heures de témoignages d'immigrés qui ont été recueillis depuis 20 ans aux États-Unis et en Israël par de jeunes compatriotes en service civique. Des quelques 750 interviews très exhaustives, 12 sont pour l'instant en ligne, transcrites, traduites et organisées pour permettre des recherches par mots-clés sur le site austrianheritagearchive.at. Adina Zeger et Philippe Rohrpaar continuent de préparer de nouvelles publications. Pour ce dernier, qui est historien à l'Institut Wiesenthal d'études sur la Shoah, ce projet est essentiel pour rendre tangibles les drames de l'exil pour le grand public.
L'exil forcé a des conséquences concrètes sur le reste de la vie des émigrés et je pense que le grand public n'en a pas forcément conscience. Les routes pour fuir changeaient à tout moment et on avait aussi des problèmes avec les autorités dans les différents pays. On peut évidemment dresser des parallèles avec certaines situations actuelles.
Sa collègue Adina Zeger chapeaute le projet pour le centre mémoriel Gedenkdienst. Elle espère qu'il contribuera à une réflexion sur les dangers de certains discours en émergence.
Dans un climat de racisme croissant, de xénophobie et même d'antisémitisme, notre projet donne à voir ce à quoi cela peut mener. Dans une certaine mesure, c'est un avertissement ou un rappel.
L'Autriche a investi dans un travail de mémoire qui a porté ses fruits. Mais dans certaines poches minoritaires de la société, le négationnisme persiste, selon Philippe Rohrbach.
Il suffit de voir l'attitude que divers membres d'un parti qui va bientôt se retrouver au gouvernement adoptent sur la question. On voit que des progrès ont été accomplis, mais ils sont peut-être fragiles.
Le FPE, dont certains membres ont des contacts avec les milieux néo-nazis, est en effet en passe de revenir au gouvernement autrichien dans une coalition avec les conservateurs. Pourtant, Philippe Rohrbach et Adina Seeger ne s'inquiètent pas trop. Ils font confiance à la société civile, ainsi qu'aux institutions qui soutiennent des projets comme le leur, pour empêcher qu'une page sombre de l'histoire autrichienne ne sombre dans l'oubli.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan était en visite en Grèce la semaine dernière, l'occasion de se plaindre de la situation des musulmans turcs qui vivent en Thrace, et ce alors que les Grecs orthodoxes qui vivent en Turquie ne sont guère mieux lotis. Pour en parler, on retrouve Anne Andlauer en Turquie. Bonjour Anne.
Bonjour.
Tout d'abord, peut-être faut-il rappeler qui sont ces Grecs orthodoxes de Turquie et ce qu'ils représentent.
Alors si l'on peut parler aujourd'hui d'une minorité, et même d'une minorité parmi les minorités, cela n'a pas toujours été le cas. Avant le traité de Lausanne de 1923, qui a notamment fixé les frontières de ce qui n'était alors qu'une jeune république érigée sur les ruines de l'Empire ottoman, plus d'un million de chrétiens orthodoxes hellénophones, ceux qu'on appelle ici les Roums, vivaient en Anatolie. Leur autorité religieuse, le patriarcat de Constantinople, installé sur les rives de la Corne d'Or à Istanbul depuis 1700 ans, atteste l'ancienneté de cette communauté. Mais avec le traité de Lausanne, qui a enclenché un échange massif de population entre les Roums d'Anatolie et les musulmans turcs de Grèce, puis à cause des vexations, parfois des violences, des spoliations subies au cours du XXe siècle, cette communauté Roum est essentiellement devenue une communauté stambouliote qui ne compte plus désormais que 2 ou 3 000 membres, surtout des personnes âgées. Alors leurs écoles, leurs associations, leurs journaux ont fermé les uns après les autres et les Roums de Turquie ont dû attendre 2011 pour que leurs biens immobiliers confisqués par l'État turc commencent seulement à être rendus.
Et puis il y a le cas du séminaire orthodoxe à Istanbul qui est fermé et dont Ankara se sert pour exercer un chantage.
Oui, s'il y a un endroit parmi tous qui cristallise les tensions entre le gouvernement et la petite communauté Roum, c'est ce séminaire orthodoxe de Halki, sur l'île de Ebeliada, en mer de Marmara. C'est là qu'étaient formés tous les prêtres grecs orthodoxes de Turquie avant que le gouvernement ne le ferme. C'était en 1971, en plein conflit avec Athènes sur la question de Chypre. Alors même si le président Recep Tayyip Erdogan laisse entendre depuis des années qu'il pourrait rouvrir sans problème, comme le réclame d'ailleurs l'Union européenne, il pose ses conditions. Il réclame en retour que la Grèce construise une mosquée à Athènes et que la minorité turque, musulmane de Thrace, puisse choisir elle-même ses représentants religieux, les mouftis. Les Grecs orthodoxes de Turquie, citoyens de ce pays, déplorent de faire l'objet ainsi d'un chantage politique.
Un chantage que le président turc ne reconnaît pas puisqu'il préfère parler de réciprocité.
Oui, c'est ce qu'a démontré encore Recep Tayyip Erdogan lors de sa visite en Grèce la semaine dernière, quand il s'est plaint du fait que les droits de la minorité musulmane de Thrace, forte de 120 000 personnes dans le nord-ouest de la Grèce, n'était pas respecté en vertu du traité de Lausanne, car Athènes continue de nommer les mouftis de cette communauté. Le patriarcat de Constantinople n'y est absolument pour rien dans cette affaire, mais il est devenu en quelque sorte l'otage d'Ankara et les Roums de Turquie avec lui. Pourtant, tous les juristes vous diront qu'en droit international, ce principe de réciprocité est régi par 2 exceptions. Un État ne peut pas brandir ce principe pour violer les droits de l'homme, ou contre ses propres ressortissants. Dans les 2 cas, Ankara enfreint ses règles juridiques, mais cela n'a rien d'étonnant car il s'agit en fait d'un problème purement politique, celui des relations toujours compliquées entre la Turquie et la Grèce.
Merci Anne Andlauer en Turquie. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, sur RFI, un nouveau point sur l'actualité.